Et Édouard Chanoux, sur cette question des contre-pouvoirs, du rôle des médias indépendants, etc.
Alors justement, pour rebondir sur les propos de John Doerren, je ne suis pas fondamentalement en désaccord avec ce qui vient d'être dit, loin de là. Mais si on prend un peu de recul, je veux dire historique, si on regarde ce qui s'est passé depuis 15 ans, c'est qu'en fait depuis 15 ans, quand même, il faut quand même constater que le pluralisme a fait des progrès en France. Clairement, cette émission aurait-elle eu lieu en 2005 ou 2010? Est-ce que John Delorean ou JBG auraient pu formuler de cette manière-là ce qu'il disait il y a 15 ans? En
Alors,
fait,
à
depuis
l'antenne de
15
Radio
ans,
Courtoisie, oui.
peut-être, bien
Mais
sûr.
par
Mais sur
contre,
les réseaux sociaux, non.
oui, c'est ça.
Alors,
Aurait-il existé, non?
non. La réalité, c'est que depuis 15 ans, nous avons bénéficié de trois leviers majeurs, bien sûr technologiques, ensuite générationnel et enfin idéologique avec l'essor, bon, Radio Courtoisie est l'aîné des médias alternatifs, mais avec l'essor des médias alternatifs depuis 15 ans. Et ce que nous constatons, quand nous avons la tête dans le guidon, comme nous ici, nous constatons les mauvaises nouvelles au quotidien, quelquefois nous perdons de vue qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que l'État profond médiatique est en train de se battre pour conserver son pouvoir. C'est pas la même chose. C'est que depuis 15 ans, nous avons réussi à imposer une voie alternative. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une brèche dans le mainstream qui a été opérée depuis 15 ans. Et ce sur quoi nous luttons, c'est justement d'empêcher la reprise d'un pouvoir par ceux qui le voient filer entre les doigts.
Je précise pour les auditeurs, Brèche dans le mainstream, qui est une de vos enquêtes, voilà, que les auditeurs peuvent retrouver sur le site de l'OGIM ou des éditions de la Nouvelle Librairie, parce que je crois que c'est en duo que vous aviez constitué cette enquête.
Alors, normalement, on fait de la pub que pour Radio Courtoisie.
Oui,
vous vouliez réagir.
Oui, je voulais réagir parce que. Bonjour, John. Je pense que John fait partie des gens qui nous aident à relever la tête. Et je pense que c'est nécessaire. Chacun dans ses vies, et on le voit quand on est je pense pas être représentatif, et je pense que par rapport à mon entourage, je suis très investi, mais que quand on est dans la vie de tous les jours, quand on est un travailleur, on a très peu de temps à consacrer en fait à ces questions-là dans sa vie, entre son travail, ses enfants, ses loisirs, etc., etc. Il y a eu des études qui ont été faites sur une forme de fatigue informationnelle. Les gens décrochent aussi. Donc c'est dans cette faille qui s'est produite, effectivement, l'opinion a appris à se remettre en question les discours, les narratifs qui étaient dans les médias mainstream. Ça allait une partie. S'informe désormais et ne fait peut-être plus que ça sur les réseaux sociaux et a abandonné les médias mainstream, le journal Le 20h. Hein. Et d'autres se sont pour le coup renfermés. Alors c'est un peu le despotisme doux de Tocqueville, c'est-à-dire que effectivement quand vous parliez des référendums ou des questions qui étaient biaisées, effectivement ils vont lâcher l'affaire, ils vont abandonner leur liberté d'expression pour faire confiance à un discours raisonnable qui est pas. Voilà. Donc je pense que mais malheureusement l'histoire n'attend pas. Je pense que c'est la responsabilité de chaque génération de se réarmer, de relever la tête et John fait partie des gens qui donnent cette énergie-là
De garder une capacité d'indignation.
Et une capacité d'indignation. Et effectivement, là où je vous rejoins, c'est que oui, ils sont eux sont acculés. Et en tout cas, effectivement, il y a cette possibilité. Ce qui fait que du coup, ils sont de plus en plus censeurs, en fait. C'est parce qu'ils pensent et c'est
Bien sûr.
parce qu'ils savent qu'ils vont perdre le pouvoir qu'ils vont être dans une espèce de fuite en avant. C'est ce que disait Emmanuel Macron, c'est la phrase que vous avez rappelée en introduction. Effectivement, il y a une
Free
urgence
speech is
pour eux.
bullshit.
Voilà, il y a une urgence pour eux et qui, à mon sens, va les amener encore plus à la faute. Et qui se méfie, parce que s'ils ferment les réseaux sociaux, si c'est difficile de s'exprimer sur les réseaux sociaux, qui, d'une certaine manière, canalisent la frustration, canalisent la violence. Donc, si, les, si euh, Les Gilets jaunes, c'était un mouvement qui a pris énormément d'ampleur, qui est né sur les réseaux sociaux, qui a pris énormément d'ampleur dans le réel. Il peut très bien se reproduire, il peut très bien se relancer un jour.
Oui. Comme avec les enfants, on se rend bien compte que quand il y a un déficit de capacité à s'exprimer, la violence le fait à la place. Donc je suis complètement d'accord avec JBG, d'autant plus que bon, l'année prochaine en France et en Europe, il y a 4 élections décisives. Il y a un précédent qui est quand même assez inquiétant, qui s'est passé en Hongrie avec l'application du mécanisme d'urgence du DSA. Selon l'institut polonais Ordo Iuris, il y aurait eu des manipulations algorithmiques qui auraient défavorisé le camp Orban. Évidemment, bon, Viktor Orban était au pouvoir depuis longtemps, il y a une fatigue institutionnelle qui s'était mise en place, le pouvoir Orban avait sans doute largement ses failles, donc peut-être que cela n'a pas été décisif, mais en tout cas cela a été fait. La question qui se pose, c'est est-ce que ce sera aussi appliqué en 2027 chez nous, dans l'Hexagone ?
Comme ils l'ont fait en Roumanie. Comme ils l'ont fait en Roumanie, et dont d'ailleurs, je ne sais pas si on peut s'en faciliter, Cocorico, Roumanie, dont la censure a été opérée par une société française qui est cotée au CAC 40 qui s'appelle Téléperformance. Voilà.
Effectivement, je rappelais en début d'entretien que la France était à la pointe du progrès, à la fois technologique et aussi idéologique, pour ce qui est d'affirmer la censure. John DeLorean, j'aimerais qu'on revienne avec vous un peu sur ce projet de chat control. Effectivement, il y a eu un amendement déposé par Virginie Joron du groupe Les Patriotes, donc c'est une eurodéputée RN, qui a fait en sorte que certaines des messageries échappent à ce projet de contrôle général de toutes les conversations. LFI, avec notamment la voix de Jean-Luc Mélenchon, était en train d'expliquer que la droite était en train de voter contre la liberté d'expression. Et c'est le moment de rappeler que tous les alliés et tous les députés de Jean-Luc Mélenchon ont voté le chat control. Donc eux-mêmes, évidemment, en bon socialiste, étaient à fond d'accord pour la censure. Comment va marcher ce chat control ? Si j'envoie un SMS, est-ce que tout le monde peut le lire ? Si j'utilise WhatsApp, est-ce que tout le monde peut le lire ? Si j'envoie un message sur Messenger, donc la messagerie de Facebook, si j'utilise Telegram, si j'utilise Signal, si j'utilise Olvid, enfin, voilà, je m'arrête là, j'ai plus d'autres messageries cryptées sur mon téléphone, donc comment est-ce que ça va marcher ?
Pour vous répondre honnêtement sur ça, je parle avec des spécialistes, il y a des gens qui font déjà des espèces de kits ou d'articles pour expliquer comment contourner justement cette censure qui va s'appliquer. Sur les détails, je ne les ai pas parce que, pareil, des applications se présentent comme étant cryptées et en protégeant les données. Et on verra bien par la suite. Mais ce que j'aimerais quand même revenir sur ce qui a été dit, je pense que c'est très important de parler du pluralisme, etc. Mais au final, ça concerne une partie des politiques. Mais on parle des gens, là, on parle des Français. Et quand je regarde les votes qui ont été faits, que ça soit du LFI jusqu'au RN, ils ont voté pour en 2023. C'est ce qui a permis poussé par Emmanuel Macron de l'authentification sur les réseaux sociaux. Il faudrait l'appeler le pass numérique, en fait. Ça devrait s'appeler comme ça. C'est-à-dire que si vous voulez aller sur un réseau social, il faut passer le contrôle et il faut avoir un pass et montrer que vous êtes de bonne foi, vous avez votre carte d'identité et que potentiellement demain, vous aurez des référés. C'est ce qu'a expliqué Emmanuel Macron quand il se déplaçait justement avec les rédactions. C'est ce qu'a expliqué Sébastien Lecornu. Ils veulent mettre en place un comité en parlant des ingérences aussi, etc., pour retirer les mauvaises informations de façon urgente, sachant qu'il y avait déjà des lois qui existent depuis 2018. Donc moi, je ne suis pas d'accord sur ce qui a été dit. Je pense que là, il faut faire du lobbying, il faut pousser, il faut mettre la pression politique, justement, spécifiquement sur le Rassemblement National. Et je pense qu'ils n'ont absolument pas compris dans quoi ils s'engageaient. Ou d'ailleurs, en plus, on parle des réseaux sociaux, quand on parle des campagnes présidentielles, municipales et législatives, moi, je le vois très bien, ça a été fait, j'ai toutes les preuves, il y a plein d'autres gens avec qui je suis en contact. Les partis politiques reprennent ce que font des bénévoles sur Internet. Donc c'est très facile de servir. Mais à un moment donné, quand on demande le minimum syndical, c'est-à-dire de protéger l'anonymat des gens qui mettent leur carrière en péril justement pour aider le camp national, la droite, pour les libertés, même les gens à gauche. Quand j'étais passé à un moment donné sur CNews, c'est ce que j'expliquais. Moi, je suis dans l'optique de dire, peu importe le camp politique où vous êtes, vous avez le droit de le dire et de défendre vos idées. Si demain, en fait, vous mettez en place ces mécanismes, ça va impacter tout le monde. Et d'autant plus quand on est dans une... Vous avez donné l'exemple de la Hongrie et de la Roumanie. Mais demain, si vous voyez que Sébastien Lecornu va dans le sens qu'il le souhaite, qu'Emmanuel Macron va au bout de son projet, parce que c'est quelque chose qu'il explique depuis le début, on a vu les archives depuis 2017, c'est quelque chose qu'il a depuis vraiment le début de sa présidence qu'il veut mettre en place, Il faut absolument s'y opposer. Et les partis d'opposition, moi, encore une fois, j'ai l'incompréhension totale qu'ils ne s'opposent pas radicalement à ça, parce que ça va impacter tous les business models qui sont indépendants, ça va impacter tous les gens qui mettent leur vie en péril et leur carrière, comme je vous disais, pour pouvoir amener des informations et dénoncer des choses. Demain, on va être dans un état, entre guillemets, policier numérique, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, et finalement, vous ne pourrez plus rien dire. C'est-à-dire que demain... Je termine là-dessus. Demain, vous êtes dans une entreprise, vous voyez qu'il y a un gros problème. Qu'est-ce que vous faites ? Vous pouvez pas aller voir vos RH parce qu'il y a un souci. Vous pouvez pas aller voir votre directeur. Vous voulez aller voir un média, mais s'il veut pas relayer votre truc parce qu'il y a des liens indicibles, transparents, etc., qui sont ensemble. Après, vous essayez de contacter, je ne sais pas moi, des associations, idem, vous ne pouvez pas. Il vous reste les réseaux sociaux. Et à la fin, vous n'avez même plus les réseaux sociaux. Pour moi, le dernier bastion restait les réseaux sociaux. Donc, si vous enlevez ça aux gens, finalement, qu'est-ce qui va rester ? C'est ça là, toute la problématique. D'autant que moi, j'ai pas envie. Je vous en prie, allez-y.
Non, je vous en prie, terminez.
Moi, je fais tout ça aussi dans le but où je ne veux pas que ça se crispe et que ça finisse mal dans la rue, parce que on va y aller tout droit si ça continue dans ce sens-là. Ou si on empêche les gens de parler, à la fin, ils ne parlent plus avec leur bouche, ils parlent avec leurs mains et leurs poings et avec des fourches. Et ça, c'est la problématique. Et il faut l'éviter à tout prix. Et il faut qu'il y ait de la rationalité qui reste. Encore une fois, je le répète à tous les partis d'opposition qui constatent bien que leurs paroles, les gens, il y a des milliers de gens qui se battent pour leurs idées, justement pour écarter le socialisme, le macronisme, peu importe du bord où qu'ils soient, et qu'on puisse les laisser la permission de pouvoir continuer de le faire, tout simplement. Sinon, c'est trop facile, c'est-à-dire qu'on va avoir juste des gens qui vont être obligés d'être devant la télé, de regarder ce qu'on leur dit, et qui ne pourront absolument rien dire sur tous ces sujets. J'en termine véritablement là-dessus. Par exemple, l'euthanasie, au final, vous n'avez plus aucun mot à dire dessus. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Pas du tout. Pas du tout. Il faut qu'il y ait la capacité d'avoir des gens qui puissent s'exprimer. Et le fait que je puisse aller sur les médias ou comme vous m'invitez, etc. aussi, c'est parce qu'il y a eu un travail de fond. Sur Twitter, moi, c'est 800 millions d'impressions par an. 800 millions. Vous voyez ? Donc, tous les petits médias alternatifs aussi qui font ça avec des gens qui travaillent, c'est colossal, en fait. C'est colossal. Donc, je comprends bien qu'il y a des problèmes, il y a des risques, ils ont peur des ingérences, des fake news, etc. Mais encore une fois, quand vous voyez dans les campagnes présidentielles, ce n'est plus du débat de fond, c'est de la propagande contre propagande. J'ai parlé négativement du RN, mais pour les défendre sur un point qui a été fait, par exemple, Bardella, il y avait des extraits qui étaient faits coupés, où il parlait de TVA ou je ne sais plus, c'était complètement de la désinformation, c'était relayé par des comptes macronistes, même des députés macronistes, il n'y a absolument rien qui a été fait. Donc vous comprenez bien que si des normes sont appliquées, des restrictions sont appliquées, et que vous n'avez pas les mains dessus, et au final c'est les mêmes personnes qui vont rester en place, les mêmes qui ont mis le pass sanitaire, vous êtes sûr que vous n'allez pas pouvoir vous exprimer ?
J'ai une réaction et aussi un remède à chat control.
Ouais. Non mais effectivement il faut qu'on clarifie les choses avec les partis notamment à droite. Quand on voit que François-Xavier Bellamy a voté pour chat control, quand on voit que Jordan Bardella s'est abstenu alors qu'il a voté avec d'ailleurs Valérie Ayer au mois de mars, et qu'on n'en parle pas d'ailleurs, à la limite qu'ils expliquent leur position. Ils ont voté pour en première lecture sur la loi de Laure Miller pour la majorité numérique. Donc, impossible de... je sais même que John a essayé de les interpeller sur X et qu'il y en a même qui ont bloqué, hein, Tanguy, Chenu, etc. etc. Soit il y a une mauvaise culture digitale, soit
pourtant, ils appartiennent à une jeune génération. Donc,
oui,
tout de même pour certains,
comme
une génération
dit,
qui a grandi avec ça.
C'est présenté de façon à ce que, est-ce que vous êtes contre la pédo, contre ou pour la pédocriminalité. Donc,
bon, oui, sauf qu'on attend tout de même de nos élus de maîtriser le discours, un peu plus de hauteur.
Et donc, voilà. Mais par contre, ce qu'on constate au final dans les votes qu'on analyse, et je l'ai analysé aussi sur mon X, les votes au Parlement européen, ceux qui votent globalement, la droite vote globalement main dans la main avec les macronistes. Oui, on va avoir Joron, on va avoir Sarah Knafo, on va avoir Marion Maréchal qui vote, pour le coup, qui ont une position assez ferme et qui votent contre ce pass numérique. Mais tous les autres, soit ils ne comprennent pas, soit ils font semblant de ne pas comprendre. Et je trouve ça très, très, très frustrant, comme le disait John. Il ne faut pas oublier que porter défendre des valeurs qui sont pas, j'allais dire à droite, mais c'est même pas à droite, qui sont pas dans le narratif officiel, fait de vous rapidement un complotiste, un énervé. Pour parler du Rassemblement National, ça fait des années qu'ils profitent, que leurs militants peuvent faire campagne grâce à l'anonymat. C'est incompréhensible qu'ils sacrifient l'anonymat sur les réseaux sociaux pour faire plaisir à je ne sais qui.
Et pour Marine Le Pen disait qu'elle était contre hein, la fin de l'anonymat en 2021. Hein.
On en a discuté, mais moi je peux passer une heure avec qui veut pour expliquer qu'il faut. Voilà.
Voilà, et ben si des députés du Rassemblement National nous écoutent, JBG, John, Edouard et même Marie-Charlotte, on est tous prêts à passer du temps avec vous pour vous expliquer mais comment ça va marcher.
Ils peuvent pas casser le lien qu'ils ont avec des gens qui d'une certaine manière les écoutent, les aides font en sorte que la liberté d'expression continue d'exister. Oui.
Mais ce sont des personnes qui prennent des risques.
Oui, c'était très
professionnellement,
je suis d'accord avec le fait qu'il y a une fissure. Faut voir que c'est un petit peu comme le mur de Berlin, c'est-à-dire qu'à force de donner des coups de pioche, on a fait des fissures. Le mur, quand il tombe en 2 secondes. On ne sait pas quand est-ce qu'il va tomber. Mais ces fissures ont été faites. Voilà. Ces fissures ont été faites et il faut qu'il y en ait d'autres. Mais je pense qu'on est quand même dans ce moment où est-ce qu'on remet du plâtre ? Est-ce qu'on remet une couche de béton ? Est-ce qu'on referme tout ça ? Ou est-ce qu'on continue de faire en sorte que ça tombe ?
Et John DeLorean, pardon, il nous reste 10 minutes avec vous. Dans ce chat contrôle qui se met en place, au niveau européen, en même temps d'ailleurs que l'euro numérique a été voté, donc ça fait des années que tout le monde alerte sur le fait qu'il y a une espèce de filet numérique qui va s'enfermer autour du citoyen. À chaque fois, on nous explique pas du tout, vous êtes un complotiste. Bon, une fois que l'intégralité des verrous numériques seront en place, on nous expliquera, maintenant on a changé d'air. Et il y a malgré tout une espèce de lueur d'espoir, ou peut-être une fausse lueur d'espoir, c'est-à-dire la France a voulu faire passer sa législation sur l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs, et l'Union européenne a expliqué que non, ça n'allait pas marcher et que c'était pas possible. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce qu'au contraire, l'Union européenne ne récuse la France que pour mieux installer autre chose ?
Je pense vraiment que c'est la deuxième partie que vous avez expliquée. Je pense que c'est une fausse bonne nouvelle où le texte ne va pas assez dans le sens de ce que souhaite l'Union européenne et au final, on a encore une fois une entité supranationale qui va décider à notre place sur ce qu'on fait tous les jours. On parle de la liberté d'expression. Je veux dire, il n'y a pas d'autre terme, quoi. Et je comprends absolument pas que personne ne dise rien. Ou des postures... JBG parlait de « oui, ils ont voté un amendement » ou un truc comme ça. On a très bien compris que c'était des postures. Sur le fond du sujet, il y a un véritable problème. Quand il faut s'opposer véritablement à une directive ou une décision qui est poussée par la Commission européenne unilatéralement... Parce que c'est pas demandé. J'ai pas vu de Français faire des manifestations genre censurez-nous, quoi. Hein. Ça n'existe pas, ça. C'est un truc de fou, quand même. Donc, c'est-à-dire que, moi, encore une fois, je pense qu'à part faire du lobbying, bien expliquer les choses et de faire comprendre qu'il y a une campagne présidentielle qui va arriver et que tous les partis qui vont faire ça vont devoir se débrouiller et on verra comment ça se passera. Et je vois pas comment leur expliquer d'une autre façon. Et s'ils considèrent que simplement avec les médias mainstream, que ça va bien se passer, ça ne se passera pas bien. Tout le monde le sait. Tout le monde le dit en off. Tout le monde le sait. Peu importe les sondages, etc. Ça va pas bien se passer. On le voit déjà. Et pour revenir sur le début de la question, on est quand même dans une période où il y a la Coupe du Monde. On a bien remarqué qu'à chaque fois, c'était pendant les étés où les pires lois scélérates étaient votées. Et que vous avez là, en même temps, l'euthanasie, chat control. La majorité numérique, c'était prévu pour être le 15 juillet aussi. Il n'y a pas de limite, en fait. Parce qu'ils
savent
que les gens
sont en vacances. C'est vraiment du pain et des jeux. Enfin,
exactement.
On
applique ça. Voilà, il y a le match de la France, c'est génial, etc. Alors oui, il faut soutenir l'équipe de France, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, si on abreuve, on met ça devant le chiffon rouge, finalement. Et derrière, il n'y a même pas j'ai pas vu un bandeau sur les chaînes de télé, quoi. Sérieusement. Alors évidemment, il se passe, il y a des choses en Iran, etc. Et il y a le, c'est urgent et enfin c'est la guerre et compagnie. Mais vous avez même pas un bandeau de ce qui est voté. Personne n'en parle. Ou alors vous avez, désolé, je vais être obligé de taper dessus, mais il parlait JBG de François-Xavier Bellamy qui fait un tweet, il se prend une note de communauté. Pareil, ça, ça vient encore des réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est des internautes qui expliquent que le responsable politique raconte n'importe quoi. Donc
une note
ça,
de communauté
en fait, demain,
donc, sur le réseau X, c'est le fait que vous pouvez commenter un tweet justement en mettant une note explicative qui permet de compléter l'information qui a été donnée. Je me permets
d'intervenir pour
ceux qui ne sont pas familiers de X.
C'est une modération décentralisée. C'est un système qu'on va prôner par rapport à une autorité comme l'ARCOM qui va décider ce qu'on peut dire. C'est la vérité, les faits qui sont rétablis par, par les internautes. Ouais.
Ça marche très bien. D'autant plus intéressant que pendant la décennie 2015-2025, la chasse aux fake news a été une véritable industrie qui a engraissé des médias, des associations, etc., etc. Et que maintenant, en partie grâce à l'IA, en partie grâce à la participation des internautes, il est possible en réalité de décentraliser donc cette vérification des faits. D'ailleurs, je me rappelle que Julien Pain de France Info avait été absolument désolé au printemps dernier quand Mark Zuckerberg avait admis que la chasse aux fake news avait été beaucoup trop loin sur ses réseaux sociaux, et Julien Pain a commencé à comprendre que là encore, il y avait quelque chose qui lui échappait.
Voilà, donc, cette chasse aux infox, elle est tout à fait nécessaire, d'autant plus que le gouvernement lui-même participait au fait de répandre des infox, et que là, maintenant, les notes de la communauté permettent d'expliquer que quand un ministre dit n'importe quoi, on peut lui opposer, par exemple, le véritable texte de la loi ou la déclaration qu'il a lui-même faite sur le sujet 4 mois ou 2 ans plus tard. Et c'était très intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, JBG. Les gens ont l'impression que les réseaux sociaux sont dans l'immédiateté. Et en fait, pas du tout. Ils installent un temps beaucoup plus long. Ils installent une mémoire. Ils installent un réservoir mémoriel. Et qui d'ailleurs explique que certains comptes sont supprimés parce que justement, on ne veut plus que les gens aient accès facilement à quelque chose qui a été constitué.
Oui, c'est ça. Alors déjà, pour rebondir, le parti politique qui achète le plus de bots sur X, c'est Renaissance. Hein.
Voilà. Et donc, les bots, ce sont...
C'est des comptes automatisés qui vont harceler ou répandre des fausses informations.
Des robots.
Voilà. et effectivement, il y a le buzz, il y a l'immédiateté, mais il y a aussi le temps long qui est permis par les réseaux sociaux, qu'on voit pas du tout d'ailleurs sur un média, par exemple télé ou même radio. Faut pas oublier que c'est de l'écrit. Principalement, en tout cas sur X, c'est principalement de l'écrit. Et l'écrit permet d'avoir une pensée un peu plus, moi j'utilise beaucoup l'écrit d'ailleurs, un peu plus posée, un peu plus complexe, un peu plus à tête froide, on va dire.
Vous rédigez toujours vos posts d'une manière très neutre. On a l'impression d'une notice technique. Et alors, de temps en temps, vous sonnez le tocsin, mais sinon, la plupart du temps, vous mettez bien les points sur les i et les barres sur les t. Et c'est très agréable de vous lire parce qu'on a le sentiment de rentrer dans une argumentation et pas juste, une fois de plus, d'avoir une bouffée de colère. Édouard Chanot, vous étiez le type positif du plateau aujourd'hui.
Non, alors je peux encore rajouter un peu de positivité. En effet, l'écrit, l'écrit et l'audio. Ici, ce qu'écrivent John DeLorean et JBG, l'écrit et l'audio sont les seules manières de constituer un esprit critique véritable. Contrairement à la vidéo, qui est en effet beaucoup plus superficielle, mais les neurobiologistes peuvent l'expliquer beaucoup mieux que moi, c'est la seule manière, c'est la lecture ou l'écoute attentive qui permet en effet d'élaborer véritablement un esprit critique. Voilà. Donc encore un peu de positivité,
si vous voulez. Et donc, malgré tout, pour revenir sur votre position...
Et c'est essentiel donc pour l'émergence de médias alternatifs, d'une voix dissonante, et de garder notre capacité d'indignation, qui n'est pas seulement de crier, mais donc d'établir cette capacité
profonde, donner des arguments à l'indignation. Vous aviez raison de dire, voilà, technologiquement, on a aujourd'hui une capacité à s'exprimer qui n'existait pas avant, et donc les réseaux sociaux nous l'ont ouvert, mais justement, on est en train de fermer ces réseaux sociaux. Idéologiquement, il y a une telle faillite du système en place que les gens maintenant ont tendance à considérer que quand Bruno Le Maire nous explique « je me félicite d'avoir créé une dette de 1000 milliards supplémentaires », ils ont l'impression qu'il s'agit moins de pensées complexes que d'une crétinerie supplémentaire. Mais là aussi, on est en train de dire que ceux qui ne pensent pas comme pense le gouvernement, et c'est l'ARCOM qui le dit, voilà, CNews, vous critiquez ouvertement le gouvernement, donc vous risquez d'être fermé. Donc, ça s'ouvre et en même temps ça se ferme. C'est-à-dire, depuis 15 ans, on a bénéficié de quelque chose, mais on sent bien que cette liberté qu'on nous a accordée est devenue effrayante pour tous ceux qui sont véritablement en train de refermer toutes les portes.
Bien sûr, bah on se rend compte qu'il y a cette réaction d'un régime, le régime, soit il se durcit, soit il lâche du lest. Là, quelquefois, on a l'impression qu'il nous lâche du lest. Hier, l'ARCOM nous dit que les équilibres, enfin, les temps de parole ne seront plus décomptés à la nuit. Enfin, bon, bref, vous m'avez compris. Donc, quelquefois, l'ARCOM peut lâcher du lest, mais alors, le reste du temps, dans 90% des cas, l'ARCOM durcit le ton sur CNews. On ne sait pas qui sera le prochain sur la liste, etc., etc., etc. Donc, c'est évident qu'il y a ce durcissement. Pour revenir au temps long, le JT de TF1, il y a plus de 15 ans, il y a 20 ans, c'était presque 10 millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est moitié moins. Ben, on sait où ils sont passés, les 5 millions. Ils sont passés ici, ils sont passés, ils lisent peut-être JBG ou John DeLorean, etc., etc. Donc voilà, il y a quand même ce transvasement. Évidemment, le mainstream n'est pas mort. Des types comme Hugo Décrypt sur YouTube sont davantage cités par Libération, Le Monde et Le Figaro. Aujourd'hui, par les jeunes, par les moins de 35 ans. Et évidemment, tout ce qu'il fait, c'est reproduire la doxa mainstream. Quand on voit ses sources, c'est systématiquement Le Monde et l'AFP. Donc évidemment que le langage dominant, la pensée unique, n'en a pas fini. Mais en tout cas, voilà, je reviens à ce que je disais, elle a quand même été sacrément fissurée.
Alors, ceux qui avaient promis d'être là jusqu'à midi sont restés jusqu'à midi 28. Ceux qui avaient promis d'être là jusqu'à midi et demi peuvent rester aussi. Je voudrais accueillir maintenant Guylain Crippel, excusez-moi, Gridel, voilà, de l'association Hosanna, et qui a lancé ce site admirable « Je prie pour un député ». Bonjour Guylain.
Oui, bonjour.
Alors, voilà, donc nous sommes avec JBG, Jeanne de Lorraine et Édouard Chanot de Logim. Pourquoi est-ce que je vous fais intervenir dans cette émission consacrée à la liberté d'expression ? On a un peu parlé de l'euthanasie, on a un peu parlé du débat sur l'euthanasie qui nous est apparu avoir été un débat un peu confisqué, c'est-à-dire il y a eu une telle parole gouvernementale en faveur de l'euthanasie, il y a eu si peu d'écoute des soignants, la convention citoyenne se termine en fanfare avec le CESE qui invite tous ceux qui ont participé à la Convention citoyenne à fêter le 15 juillet l'adoption de la loi, donc évidemment devant le scandale de ce cocktail festif pour célébrer le fait que tout le monde allait se faire seringuer avec du poison, ils ont fini par annuler le cocktail. Et vous avez récemment, avec cette association Hosanna, décidé de lancer un site « Je prie pour un député » et même « Je jeûne pour un député » dans les derniers jours, qui rééquilibre en quelque sorte la parole publique, qui donne une manière d'agir dans la sphère publique à ceux qui avaient le sentiment en fait qu'ils n'avaient pas été écoutés.
Oui, c'est ça, effectivement. On a lancé cette grande chaîne de prière nationale il y a environ 2 à 3 semaines, qui a connu un succès, je dirais, inattendu, une mobilisation très très forte chez tous les priants, et qui permet en fait de porter un député dans sa prière, voilà, tout au long du processus législatif, et du coup éveiller sa conscience, convertir son cœur et le faire réaliser qu'effectivement cette loi mortifère n'a pas sa place en France, tout simplement.
Alors, ça fait vraiment partie de ces nouveaux instruments politiques. Normalement, avant, il y a 10 ans, on serait descendu dans la rue, on aurait été 1 million, la préfecture de police aurait expliqué qu'on était 200 000, le maire de Paris aurait demandé qu'on ramasse nos déchets et François Hollande aurait expliqué que ça ne sert à rien. Il y a 10 ans, on aurait signé une pétition à plus de 700 000 personnes et ensuite le directeur du CESE de l'époque aurait expliqué que ça ne sert à rien avant que le tribunal administratif n'explique 2 ans après la loi, ah ben si, finalement, votre pétition était recevable, c'est vraiment trop bête. Donc là, on voit bien que les moyens démocratiques, de démocratie directe, si vantés par Macron, ont été visiblement inefficaces dans le cas du mariage pour tous. Vous avez choisi cette voie numérique, cette voie cordiale aussi. Comment expliquez-vous le succès ? Est-ce que vous vous attendiez à ce que Je prie pour un député et un tel retentissement ? Et on parlera ensuite du retentissement médiatique qu'il a pu avoir.
Alors effectivement, nous, on a été surpris par l'engouement et la mobilisation spirituelle qu'il y a autour de cette grande chaîne de prière. Alors, on s'y attendait à la fois oui et non. Oui, parce qu'en fait, Hosanna, c'est une plateforme qui accueille tous les mois 5 millions de visiteurs. En fait, on est une grosse plateforme de prière, donc on est habitué à gérer des gros volumes de priants et des grosses chaînes de prière. Après, ce qui est très spécifique dans le cas actuel, c'est qu'en quelques jours, Je dirais que la mobilisation s'est faite autour d'un sujet spécifique qui est cette loi appelée Aide à mourir. Donc nous, on a été surpris qu'il y ait autant de priants. Il y a plus de 70 000 priants qui se mobilisent tous les jours et qui prient leur chapelet pour changer le cœur des députés. Donc c'est, effectivement, de ce point de vue-là, ça a été surprenant, voilà, c'est sûr.
JBG, est-ce que vous pensez que voilà, une initiative comme Je prie pour un député, c'est aussi comme tousfichés.com, c'est l'émergence dans le monde numérique d'une vraie parole citoyenne par rapport à un défaut médiatique et politique de prise en compte de l'ensemble des voix?
Oui, alors c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Je pense que notre rôle, c'est d'essayer de redonner la parole aux citoyens. D'ailleurs, ça devrait être le rôle de tout politique de favoriser l'émancipation, hein, pas la dépendance, mais l'émancipation. Et je pense que, en tout cas, c'est comme ça que moi, sur tout ce fichier, je l'ai vu, c'est vraiment de donner une boîte à outils citoyenne pour que on simplifie une procédure qui va être compliquée pour l'administration, qu'on puisse interpeller un député facilement. Donc oui, avec quand même, je trouve qu'une limite quand même à avoir bien en tête, c'est que on peut, il est important de pouvoir faire entendre sa cause, et les réseaux sociaux et le digital est un moyen fabuleux pour mobiliser. Ensuite, concrètement, sur les résultats, sur le notamment, par exemple, si on peut faire une très bonne campagne politique sur X et ne pas être élu, en fait. Voilà, donc il faut arriver à trouver les moyens, les vecteurs qui vont concrétiser cette mobilisation en action et en résultats. Et ça, c'est une vraie question. Donc je pense qu'il y a un mix entre ça et le monde physique, mais la mobilisation, elle part et elle s'amplifie avant tout, effectivement, et par les réseaux sociaux et par ces initiatives-là qui sont très importantes et qui permettent en tout cas de créer des communautés, des groupements d'intérêts, des gens qu'on n'aurait jamais croisés dans la vie réelle si on est dans telle ou telle région. Donc même avec X et avec la traduction automatique, aussi dans le monde entier. Voilà. Mais ensuite, sur les moyens de pression et de pouvoir et de relais, oui, par exemple, tous fichés, je pense qu'à la rentrée, les 3500 saisines qu'on a envoyées à l'ARCOM, hein, dont on a un QV de réception, ben, je vais les imprimer, puis on va aller devant les grilles de l'ARCOM les déposer. Voilà, donc si toutes les caméras seront bienvenues. Mais je pense il faut qu'on arrive. Alors peut-être, il y a peut-être un esprit, peut-être sur des sujets qui s'y prêtent, mais un peu potache ou un peu qui vont être un peu plus. Dédramatiser les choses, mais je pense que l'action aussi, elle doit être aussi sur ce terrain-là, et devant l'Assemblée nationale, devant l'ARCOM, devant une autorité. Je pense qu'il faut pas s'en priver, voilà. Mais il y a un moyen. Je peux le revendiquer maintenant, en 2009, j'avais fait un des premiers flash mobs en France contre Jean Sarkozy, qui avait été nommé par son père à la tête de l'EHPAD. Ça s'appelait Banana République. J'avais monté un site, c'était 2009, l'iPhone c'est 2007, les réseaux sociaux c'est 2005. J'avais mis une carte, j'avais posé des bananes, donc il y avait plein de gens et j'avais invité des journalistes, il y avait l'AFP, etc. Et ça avait conduit à ce qu'ils renoncent à... Voilà. Donc je pense que plus on fait du bruit, voilà, c'est pour ça qu'ils veulent couper les réseaux sociaux, plus on se montre, plus il y a une part de prise de risque, et je pense que effectivement c'est pour ça que on a besoin de relais, on a besoin de gens qui prennent ce risque-là, qui portent une parole, mais il faut donner le moyen, voilà. Et juste pour la République, ce que j'avais trouvé qui avait été sympa, c'était de dire, bah voilà, pour protester pour le fait que en fait, bah vous n'avez pas d'emploi, et là il y a un jeune de 24 ans qui est le fils d'eux qui arrive par son père de forme de népotisme total, pour protester, en fait, bah, vous achetez une banane, vous collez un drapeau français dessus et vous vous prenez en photo en faisant semblant d'appeler l'Élysée pour proposer votre CV, quoi. En
gros, voilà. Avec la banane.
Avec la banane, okay. Voilà. Il y a des photos encore, on peut retrouver un petit peu, si on cherche un petit peu sur Internet. On avait fait place de la Défense, là, devant le CNIT. On avait fait place de la République, évidemment. J'avais mis une banane sur l'Élysée. Et il y a un gars qui s'est pointé à ce point de rendez-vous avec une banane dans la main. Il s'est fait, il y a trois CRS qui lui ont sauté dessus en lui demandant ce qu'il faisait dans la rue avec une banane à la main. Voilà.
Voilà. Et remarquable, la République sait se défendre. Guylain Gridel, pour le moment, c'est une mobilisation réussie, effectivement, vous le disiez, 70 000 priants chaque jour. C'est une mobilisation intime, personnelle. Et avez-vous le projet, d'ici le 15 juillet, à défaut de planter des bananes un peu partout, de proposer aux gens de rééditer les veilleurs, c'est-à-dire aussi de prier pour un député debout, silencieusement, autour de l'Assemblée nationale, par exemple?
Alors, effectivement, je rejoins ce qui est dit, c'est que cette loi, plus on en parle, moins on l'aime.
Donc,
la caisse de résonance à travers les réseaux sociaux est hyper importante, je pense. Donc, c'est pour ça que nous, au-delà du site prie.undéputé.fr, on a largement mobilisé tous nos réseaux pour pouvoir activer un maximum de communication autour de l'opération. Et on se rend compte qu'à chaque nouveau vote, le nombre d'abstentions baisse et le nombre de votes contre la loi augmente. Ça, c'est un très bon point qui a été souligné, auquel j'abonde. Et après, nous, pour densifier notre action de prière, on propose aujourd'hui, vendredi et mercredi 15 juillet, jour du vote, on propose un jeûne à tous les priants. Comme le font souvent les évêques de France et d'ailleurs, on appelle le jeûne pour pouvoir contribuer aussi à une forme de pénitence et une prière pour faire en sorte que nos prières puissent aboutir. Nous, notre monde aux Annas, c'est pas le monde physique au sens où vous entendez-vous. Nous, on se cantonne à notre mission qui est de rassembler l'Église dans la prière par Internet. Là-dessus, on est assez fort et on est assez mobilisé. Donc, on n'appelle pas forcément, nous, aller dans la rue autour de l'hémicycle. En revanche, nous, ce qui est intéressant, c'est que notre chaîne de prière a été entendue jusque dans l'Assemblée, puisque cette semaine, la semaine dernière, les députés ont été largement informés du sujet. Ça a été discuté dans la buvette, ça a été discuté même à l'Assemblée. Il y a eu des prises de parole de députés dans l'Assemblée sur la chaîne de prière. Donc, c'est un signe visible. Que finalement ça interpelle cette mobilisation spirituelle et que ça effectivement créé et provoqué des débats intenses. Alors je pense pas que la prière, nous on le voit comme un moyen de pression. Pour nous la prière c'est simplement un acte de charité. Et en fait le but c'est aucunement forcément de faire pression, c'est plutôt de porter dans la prière les députés, leurs familles, aussi porter leur entourage pour convertir les cœurs. Donc nous on le voit comme un moyen supplémentaire en fait de discernement, on va dire, et d'orientation des débats pour que ce soit plus juste et plus éclairé. Voilà.
John Delorean, vous aviez entendu parler de Je prie pour un député?
Écoutez, vous allez pas me croire, mais c'est vrai, ma femme juste avant encore aussi, je me connecte, me parlait de l'application et de proposer de faire le jeûne aujourd'hui pour ça. Donc
préféré aller vous faire couper les cheveux, voilà.
Elle m'en a parlé il y a juste avant, vers midi et quart. Et moi aussi, je voudrais insister là-dessus. Ce qui a été dit par Ghislain, c'est que il y a aucun moyen de pression qui est souhaité. C'est que c'est d'apaiser les cœurs et de faire comprendre aux gens qu'ils vont pas dans le bon sens sur cette loi-là, et qu'ils reprennent leurs esprits et qu'ils se rendent compte que il faut la jeter à la poubelle, c'est tout simplement. Et d'autant plus pour revenir avec faire le lien avec les réseaux sociaux, dans cette loi, dans les discussions qui étaient en mai, il me semble, ils expliquaient qu'il y avait une sanction pour les gens qui iraient à l'encontre de la demande d'une personne de réclamer l'euthanasie, c'est-à-dire que si quelqu'un par exemple se lance dans le processus et que vous venez pour essayer
d'avis.
Voilà, de lui faire changer d'avis, il y avait une amende qui était extrêmement forte, en fait. Alors, je sais plus où ça en est. De toute façon, le texte va être encore refait.
Ça existe
toujours d'actualité.
On n'entend plus parler. Donc, c'est pour ça que je l'amène de cette façon. Je pense qu'il faut en rediscuter aussi. Et si vous couplez ça avec les réseaux sociaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, par exemple, moi, je vais toujours dire que je suis contre l'euthanasie et je vais me taper des amendes parce que je vais mettre un tweet. En disant, ou quelqu'un a envie de se suicider ou va vouloir justement,
Si vous vous interposez face à quelqu'un qui veut sauter sur le métro, ou sauter d'un pont, oui, c'est un délit d'entrave, en fait. Alors que vous, de prime abord, vous apportez votre aide, et puis, c'est comment le terme juridique quand on...
Entrave ?
Non, quand on veut sauver une personne...
Assistance
à personne en danger. Voilà. Donc en fait, ça n'existera plus, ce sera un délit d'entrave permanent.
Et encore une fois, pour insister, excusez-moi, mais vraiment pour insister là-dessus, il n'y a absolument aucune pression. C'est juste de faire valoir ce qu'on porte, nos idées, etc., dans un but d'apaisement et se battre pour la vie, finalement. Mais donc, ils peuvent se battre pour l'euthanasie, le droit à mourir, mais des gens ne peuvent pas se battre pour la vie. Ça, c'est incompréhensible pour moi.
Oui, par rapport à ce que vous disiez, je pense qu'il y aura forcément un délit d'opinion sur cette question-là, sur les réseaux sociaux, avec une association qui sera signaleur de confiance et qui interdira.
Exactement.
Bien sûr, c'est comme le climat, c'est comme Quota Climat, etc. Enfin, il y a un marché à prendre. Si une association veut se monter, on peut parler de marché, oui. De la censure.
Et Édouard Chanot, quand il y a une initiative comme Je prie pour un député qui se lance, en tant qu'observateur des médias, est-ce que vous considérez que c'est un nouveau média en tant que tel ? Est-ce que vous considérez que c'est une initiative ? En fait, on voit bien maintenant que la définition du journal, du journalisme, du journaliste est devenue floue.
Ben, je me suis posé la question hier, figurez-vous, pour... Messieurs JBG et John DeLorean, puisque je les ai cités dans un article sur la majorité numérique, et je me suis dit, mais comment je vais les qualifier ? J'ai tout simplement, alors corrigez-moi si vous voulez un autre épithète, mais je vous ai qualifié de lanceur d'alerte, parce que je trouve ça plutôt positif, encore une fois, et que ça exprime une réalité profonde. Donc, pourquoi pas l'appliquer, enfin, à Osana, non, j'aurais du mal à qualifier ça de lanceur d'alerte, mais
c'est un réseau social catholique, c'est une plateforme, c'est 5 millions de personnes, donc c'est pas un lanceur d'alerte, mais voilà, c'est un média comme un autre, en fait.
Ils ont droit à la parole, tout simplement.
Et puis, je pense que ça met certains sujets en lumière, avec Je prie pour un député, je pense que au-delà du petit tirage au sort quand vous lancez l'application et que vous recevez le nom du député pour qui vous devez prier.
Ah, on ne peut même pas choisir son député.
Non, je crois pas. Enfin, en tout cas, j'ai cru comprendre qu'il y avait.
Je suis en train de révéler que visiblement, je n'ai pas téléchargé l'application.
Ni prier.
Alors, prier, oui, mais pas avec l'appli. Guilin.
On peut peut-être choisir.
On peut au choix piocher un député au hasard avec une roulette.
Voilà, c'est ça.
La roulette vous assigne un député au hasard. Ou si vous avez un député, votre député pour lequel vous voulez prier, vous le choisissez.
D'accord.
Ce qui est intéressant, c'est que moi, pardon, mon député pour lequel je prie depuis 3 semaines, donc Sabine, elle s'est abstenue et le dernier vote, elle a voté contre. Donc il y a quand même pas mal de... Voilà, pour les groupes qui prient pour les députés qui changent d'avis, on voit que la prière porte ses fruits et ça, c'est intéressant.
Mais je pense que justement, vous pouvez être considéré comme lanceur d'alerte puisque avec ce tirage au sort du député pour lequel vous priez, vous interpellez aussi les gens sur le fond du sujet. Et les gens vont commencer vont depuis quelque temps sur le fond du sujet et sur les vraies thématiques et ne se contentent pas de ce qu'ils lisent uniquement dans les médias.
Je voudrais justement revenir sur la manière dont, à l'Assemblée nationale, votre initiative a été soit saluée, soit au contraire critiquée. C'est-à-dire, on avait l'impression d'un débat très confisqué, plus de 2000 amendements, 35 seulement adoptés, tous les amendements de bon sens rejetés. Yael Braun-Pivet qui se félicite à l'issue du truc d'un débat respectueux, alors que une navette parlementaire interminable, une pression du président de la République pour faire en sorte d'accélérer le calendrier. Donc, Yael Braun-Pivet a été fidèle à elle-même. Et là, donc, certains députés étaient surpris, curieux, et ont redonné, du coup, aux opposants à la loi une certaine existence médiatique et politique. D'autres députés étaient franchement furieux en expliquant qu'on n'avait pas le droit de prier pour eux. Comment expliquer ce rejet en fait d'une parole citoyenne, parce que chaque prière qui est faite, c'est en fait un citoyen qui s'exprime et qui interpelle le représentant du peuple.
Oui, alors effectivement, donc déjà la réaction des députés était globalement bonne, néanmoins certains effectivement se sont exprimés une forme de mécontentement. Nous, ce qu'on pense, c'est que chaque vote compte à l'Assemblée, mais chaque prière compte dans le ciel globalement, et que ça aide finalement à éveiller les consciences. On a interrogé quand même le député à la sortie de l'Assemblée, alors de tous bords politiques, hein, puisqu'en fait, sa chaîne de prière, elle est apartisane, mais elle n'est pas apolitique, au sens où, effectivement, on participe à un débat politique par cette mobilisation spirituelle, mais néanmoins apartisane, ce qui fait qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des députés de tous bords qui ont certains chrétiens, d'autres non, qui ont finalement plutôt été bien reçus cette chaîne de prière. Pour ceux qui ont été interpellés, effectivement, on leur a répondu que nous, on voyait la prière comme un acte de charité, un acte bienveillant pour les porter, eux et leur famille, dans leur travail du quotidien. Nous, globalement, on est assez admiratifs hein, du travail que font nos députés français, les 577, et on trouve qu'ils sont, voilà, qu'ils sont admiratifs et qu'ils remplissent un devoir politique qui est admirable. Néanmoins, le peuple aussi a droit de s'exprimer, et c'est ça qu'on fait en proposant cette chaîne de prière spirituelle. Voilà.
Et donc, le peuple s'exprime, donc, et donc c'est, répétons, donc c'est je prie pour un député. Et,
Oui, alors effectivement, donc nous, moi je parle plutôt du peuple de Dieu, hein, voilà, dans notre cas, effectivement, qui peut s'exprimer. Il va sur prie-pour-un-député.fr, il choisit son député, il télécharge l'application Rosario, dans laquelle il trouve tous les priants qui prient leur chapelet vivant tous les jours pour les députés. Et le but, c'est qu'effectivement, ces députés puissent discerner beaucoup mieux. Leur rôle au sein de ce vote, voilà.
Jeanne de Lorraine, donc votre femme vous a proposé d'y aller. Et est-ce que vous considérez que dans votre rôle de lanceur d'alerte, on va adopter la classification Édouard Chanot, voilà, estampillé 2026. Est-ce que dans votre rôle de lanceur d'alerte, il y a non seulement votre travail d'information, la manière dont vous alertez en permanence sur toutes les entraves à la liberté d'expression qui existent, mais aussi le fait de relayer toutes les initiatives qui sont justement des initiatives citoyennes de prise de parole, d'intervention, où il s'agit de court-circuiter tous ces intermédiaires qui en fait ne sont plus du tout là pour relayer, mais au contraire pour empêcher la parole de circuler entre le pouvoir et le peuple.
Il y a plusieurs parties, c'est ce qui était dit aussi tout à l'heure, c'est de... Alors, j'ai pas compris pourquoi on disait que les vidéos, c'était pas forcément bénéfique. Je trouve que c'est très important et je les mets parce qu'en fait, de capturer un extrait vidéo permet de le garder en bibliothèque. On sait d'ailleurs que sur Google et Internet, il y a de plus en plus de sites qui disparaissent, que là, sur ma page, en deux clics, je retrouve exactement telle personne a dit quoi à tel moment. Et il y a aussi l'aspect sur des sujets... de faire du métapolitique, c'est-à-dire, les gens parlent souvent de la fenêtre d'Overton, mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que sur des sujets, vous ouvrez la porte ou la fenêtre sur plusieurs problématiques. L'euthanasie, c'est quelque chose que je parle depuis le début aussi, où je dis personnellement que je suis contre, je n'attaque pas les gens qui sont pour, je veux dire, chacun a sa liberté de conscience, et voilà, mais je suis dans mon droit, comme d'autres personnes, de donner mon avis. Donc le but, c'est de montrer aussi que ça, c'est possible. Le fait d'être lanceur d'alerte... faire du métapolitique, de l'opinion, etc., peu importe, mais le but aussi, c'est de montrer aux gens qu'il y a une capacité de, à partir d'un moment où vous parlez d'un sujet, vous savez de quoi vous parlez, vous avez de l'influence, il faut le faire, en fait. Il faut le faire, on ne peut pas se reposer simplement sur les responsables politiques. Il y a tout un aspect très important des Français sur plusieurs questions à faire. Alors évidemment, il y a de moins en moins de monde dans les rues et moi, c'est quelque chose que je développe en disant que les institutions sont tenues par les macronistes et la rue est tenue par l'extrême gauche. Donc, c'est très compliqué de s'exprimer aujourd'hui. Il reste encore les réseaux sociaux. Mais il faut le faire. Il faut s'impliquer. C'est ce que je dis tout le temps aux gens. Et les gens s'impliquent. Ils m'envoient des choses. Ils m'envoient des informations, où on discute simplement parce qu'il y a des gens qui me racontent aussi leur vie tous les jours. Donc, il y a tout cet aspect-là. Guilin, pardon, parce que je disais Ghislain, mais Guilin, au niveau de parler de charité, etc. Le but aussi, c'est d'être meilleur tous les jours. Pas forcément que du politique, etc., mais avec les gens. Et je trouve que ça, c'est important et ça peut se faire aussi par les réseaux sociaux. C'est pas simplement une posture. Moi, je suis vraiment dans cet esprit-là. C'est pas simplement une posture. C'est pas quelque chose avec lequel je vis. Je le fais purement par esprit de mise en avant des idées, de mettre des choses sur la place publique. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont animés en France de le faire. Et c'est pour ça qu'on se bat au quotidien pour protéger ça, parce que si vous l'enlevez, les autres façons de s'exprimer ne seront, à mon sens, pas bonnes. Donc voilà.
JBG, vous aussi, en fait, il y a d'une part l'information que vous donnez, mais il y a par ailleurs ce lien que vous créez. Cette interdiction des réseaux sociaux, cette réduction, c'est aussi, en fait, condamner un peu plus les gens à l'isolement.
Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, on peut... on le voit sur les, par exemple, quand on est, moi je suis papa de deux adolescents, voilà, qui sont sur les réseaux sociaux. Quand je, effectivement, j'ai du contrôle parental, je pense avoir un dialogue avec eux qui fait que normalement ils viendraient me solliciter s'ils devaient rencontrer des choses qui les dérangeraient. Mais quand je vois leurs usages, effectivement, ils sont beaucoup connectés avec leurs amis, les amis qu'ils voient tous les jours d'ailleurs. Mais ils ont des groupes WhatsApp, ils regardent des choses sur YouTube. Vous avez cité Hugo Décrypte, des choses comme ça, etc. Donc ils sont, d'une certaine manière, cette loi qui va exclure les mineurs va brider leur liberté d'expression. Donc on va les remettre dans une bulle. Voilà. Et donc et d'ailleurs même, ce qui est paradoxal pour le clan progressiste, par rapport à certaines minorités, par exemple un jeune homosexuel qui vit dans un petit village au centre de la France, il n'a pas forcément dans son environnement immédiat des gens qui vont l'écouter, qui vont l'aider, et il va trouver au travers des réseaux sociaux des groupes voilà. Donc on ne peut pas et pour le coup ça qu'importe la censure, la volonté du politique de maîtriser ça, on n'empêche pas une rivière d'aller à la mer. Elle trouvera de toute façon un chemin. Et alors ça peut se disperser, ça peut se recréer ailleurs. Facebook, on s'en fiche, on peut en recréer un, la technologie elle est facile à acquérir, donc on aura toujours un moyen de recréer ces espaces de discussion, on l'empêchera pas, c'est une innovation majeure, ça a changé le monde et on ne reviendra pas assis devant notre canapé avec Claire Chazal ou son clone, peut-être qu'ils arriveront même à nous la cloner à un moment. Moi quand j'étais petit, c'était mon grand-père, on était 26 petits-enfants, on était tous devant la télé à la campagne pendant le JT de PPDA ou de Claire Chazal, personne devait parler, il prenait des notes, ensuite il faisait d'autres trucs en politique, mais c'est fini ce temps-là, c'est fini, et tant mieux. Ce que l'on voit d'ailleurs sur la façon dont le politique se justifie sur ces sujets-là, les réseaux sociaux, et d'ailleurs des études le montrent sur, parce que soi-disant ce qui justifie la minorité, la majorité numérique, c'est que ça créerait des addictions, des troubles, les deepfakes, les machins, etc. etc. En fait, les réseaux sociaux, c'est rien de moins que le monde réel dans ses joies comme dans ses peines, dans toute relation sociale. Il y a des bonheurs, il y a des malheurs, en fait. Il y a rien de nouveau là-dessus. Sauf que ça amplifie, il y a une amplification qui fait que effectivement. Il n'y a plus de contrôle. En tout cas, le politique ne peut plus, en passant à 20h, arriver à mobiliser une opinion ou à faire croire que tel ou tel sujet est géré. Et donc, ils sont, et on le voit sur tous ces sujets, comme vous l'avez rappelé, sur cette fameuse loi. D'ailleurs, même, c'est ce qu'on disait, le vocabulaire, même un média devrait interroger les mots aide à mourir, par exemple. Déjà, en fait, c'est là où la gauche gagne à chaque fois. C'est que dès qu'on pense avec ces mots, on a déjà perdu une première bataille. Voilà. La protection de l'enfance sur les réseaux sociaux. Mais ben voilà, il y a plein de sujets comme ça. Donc il faut toujours l'esprit critique, et je pense qu'on est... Il y a plus de bon sens dans le citoyen lambda qu'on peut croiser, comme disait John, chez son coiffeur ou chez son boucher, qu'un technocrate qui n'a jamais rien vu d'autre dans sa vie, qui n'a jamais créé une entreprise, qui n'a jamais vraiment croisé les gens. Donc oui, les députés sont en première ligne. Ils nous doivent aussi en tant que représentants, sinon ils peuvent très bien rendre leur mandat, mais d'être à l'écoute de toutes les opinions et de ne pas se renfermer et se durcir comme ce qui a été dit. Ouais.
C'est pour ça que l'élection de 2027 sera le tournant majeur, en fait.
Absolument. Et il nous reste 3 minutes. En une minute, Guylain Gridel, voilà, je prie pour ton député.fr, et ensuite, donc, le site existe. Succès incroyable. C'est sans doute pas la seule loi pourrie qu'on va voter dans les mois et les années qui viennent. Vous n'allez pas supprimer le site une fois passé le 15 juillet ?
Non, effectivement, après le 15 juillet, on réfléchira à la suite, qu'on voit l'engouement qu'on proposera. Effectivement, on voit que le spirituel vient enrichir le politique globalement. Donc effectivement, il y aura une suite, c'est sûr. Voilà, on communiquera dessus très largement après le vote du 15 juillet.
Merci beaucoup Guylain. Et Édouard Chanot, là aussi, donc 2027, comme l'a rappelé Marie-Charlotte Dubourblanc, c'est maintenant la course est ouverte, 150 chevaux piaffent sur la ligne de départ, la droite va réussir à se vautrer lamentablement pendant que la gauche réussira à s'unir. Comment est-ce que le GIM va accompagner cette campagne présidentielle?
Alors, ce qui est amusant, c'est que vous avez évoqué JBG, pareil, a évoqué les politiques, vous évoquez tous les politiques. John Delorean évoque à demi-mot une critique plutôt polie du Rassemblement National. C'est sûr qu'il y a une réalité vis-à-vis des médias alternatifs, c'est que la droite n'a pas tout à fait encore saisi le phénomène alternatif en tant que tel. Prenez par exemple la gauche de la gauche, ou Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas le citer, a déjà, critique ouvertement le parti des médias, je cite, même s'il va évidemment annoncer sa candidature au JT de TF1, mais aussi il organise des conférences de presse pour les médias indépendants. On parle plus à la gauche de la gauche de médias indépendants qu'alternatifs, et parmi eux, évidemment, des influenceurs ou des lanceurs d'alerte qui suivent la mouvance insoumise. Il y a quand même cette réalité-là. Jean-Luc Mélenchon est sans doute très avant-gardiste là-dessus. Avant lui, il y a eu Donald Trump. Si vous prenez les 10 plus grands podcasteurs américain sur Spotify, sur les 10 de mémoire, Trump a répondu à 7 sur 10 d'entre eux, et avec des scores absolument pharaoniques. Certains atteignaient 70 millions d'écoutes, etc., etc. Donc il y a ce phénomène alternatif qui va très vite. JBG disait en effet qu'on peut jouer longtemps au chat et à la souris, que la technologie va souvent beaucoup plus vite que le pouvoir politique, que le pouvoir décisionnel. Il y a cette réalité-là. Il serait temps, en effet, que la droite se mette à saisir pleinement l'ampleur du phénomène et les opportunités qui s'ouvrent à elle.
Merci Édouard Chanot, merci beaucoup JBG d'avoir été avec nous, merci Guylain Gridel, pardon, merci John Delorean. Voilà, une dernière fois, soutenir.rc.fr, voilà, si vous avez envie que votre média alternatif préféré ou presque fasse partie de l'ensemble qui va être formé par la droite pour pouvoir s'adresser directement aux Français sans passer par le JT de TF1 ni même celui de CNews, n'hésitez pas, soutenez-nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en ce soir du 14 juillet, et demain c'est Arthur de Vatrigan qui animera ce Restons Courtois. Merci et à très vite.
Ça suffit maintenant.